Peut-être dès le réveil. Peut-être certaines personnes, oui, mais moi, non.
Oui.
Ouais, il y a un peu une musique pour des moments dans la vie.
Enfin, comment, quand même, genre, comment tu te ressens avec Special Friends? Genre, la manière dont tu joues de la batterie et tout, c'est de nouveau pour toi
Bah, en fait, mon entrée dans la musique, c'était avec Special Friends. J'avais envie d'apprendre un instrument et chanter en même temps. Ouais. Et je me suis dit que la batterie, ça a l'air d'être un peu plus facile dans le sens où c'est, pour moi, assez intuitif.
Ouais.
C'est un peu plus... Quand j'ai rencontré Guillaume, il joue la guitare dessus. Il peut jouer tout ce qu'il veut.
Ouais.
Et moi, je tiens un rythme simple ou pas. Et j'essaie de tester, expérimenter des choses. Ça peut être bizarre, ça peut être très minimal et peu importe.
Ouais.
Il peut jouer ce qu'il veut et on chante ensemble. Et ça crée pour moi un projet que j'adore. Et je pense que les gens qui aiment bien aussi.
Il t'a laissé quand même, tu es libre.
Oui.
Genre d'exprimer ce que tu as envie d'exprimer par rapport à ces rythmes de gratte et tout.
Ouais, et moi j'écris tous les textes dans ce projet et c'est quelque chose aussi que j'aime énormément.
C'est écrit en anglais ?
Ouais, pour la première fois sur le dernier album, j'ai essayé d'écrire des chansons en français. C'était un peu un défi.
C'était galère.
C'est un peu galère, j'ai écrit 3 chansons en français.
Ok. Alors pourquoi vouloir faire ça ?
Parce que je suis américaine, mais ça fait 10 ans que je suis en France et j'avais envie de tenter des trucs d'écrire en français. Et c'est un peu abstrait et c'est pas très évident, mais je trouve ça cool. C'était important.
Ok.
Voilà. Donc voilà.
Bon, est-ce que tu peux nous conseiller une chanson de Special Friend qu'on peut mettre à la radio là ?
Oui, vous pouvez écouter la chanson qui s'appelle Bête. C'était sorti en single et justement c'est en français. Et ça parle un peu de. La défaillance, je sais pas comment dire en français, je sais pas, l'échec de l'humanité. Et on vit une époque, quand même, il faut le dire, et c'est très difficile de parfois rester positif en ce moment parce que justement, tu vois, il y avait une manif aujourd'hui pour Palestine et que tu vois, c'est la guerre partout et c'est fucking pesant les actus. Et que cette chanson se parle un peu de ça aussi, que genre l'humanité qui se fait que la merde.
Hey.
Et.
Ok, donc c'est quoi le morceau ?
Ça s'appelle Bête.
Ok, voilà. C'est parti.
Je t'envoie le morceau.
Merci. Top, merci.
Non, ça va ?
Yeah. fatigue, t'as l'envie pour nous de faire la vie. Ce triste, la vie serait moche. Alors, alors, je fume, je bois et j'écris. Les mots sont dangereux, ils rendent vraies les choses.
Moi je sais lever le poing, moi je n'oublie jamais rien. Moi je sais rester humain, je sais toujours d'où je viens.
Nous on ne veut pas être des gagnants, mais on n'acceptera jamais d'être des perdants.
Idéaux et débat, livre et combat.
Monsieur.
Je porte un toast à tous ceux qui ont lutté pour que nous puissions nous arracher à cette condition forcée. À tous ceux qui pensent que nous sommes des humains et pas qu'une somme de cerveau disponible de part de tranches de cible. À tous ceux qui l'ouvrent bien grand.
Je me connais, je lâcherai pas l'affaire. Je vais piquer le grève comme on pique une colère. Plus têtu que tous les vieils hommes et la mer. Pour que continue le combat ordinaire.
Je fume, je bois et j'écris.
Pas se faire d'illusions, mais c'est mieux debout pour l'action.
Va falloir montrer les crocs avant qu'ils nous serrent la laisse. Autour du garrot.
Bonjour, vous êtes toujours à l'écoute de Radio Libertaire. Radio Libertaire 89,4 MHz, Radio Libertaire, la radio sans Dieu, sans maître et sans publicité. Et c'est l'émission Idéaux et débats du jour qui commence avec au programme des choses absolument passionnantes, puisque nous allons retrouver Mathieu Simonet pour un ouvrage qui est paru chez Julliard et qui s'intitule La fin des nuages. C'est un livre que j'ai beaucoup aimé. Et puis, en deuxième partie d'émission, nous retrouverons Gérard Guégan pour sa chronique mensuelle. Voilà pour le programme. Et à la fin de cette émission, je vous dirai un mot à propos d'Arthur Rimbaud, bien sûr. Comme vous le savez sans doute, nous célébrons cette année le 150e anniversaire de la publication d'Une saison en enfer. Cet ouvrage absolument génial qu'il a écrit dans des circonstances particulières. Et nous aborderons donc cet anniversaire avec la publication chez Gallimard en grand volume de Une saison en enfer, en réédition, avec cet ouvrage qui est illustré par Patty Smith. Autre coup de cœur, avec donc des écrits d'elle, des dessins, des photographies et un choix de poèmes autre qu'Une saison en enfer qui, à mon avis, est particulièrement judicieux, mais je vous en parlerai plus longuement à la fin de cette émission. Voilà pour le programme du jour. On va retrouver tout de suite Mathieu Simonet pour La fin des nuages, ce roman paru chez Julliard. Pour Radio Libertaire 89,4 MHz, c'est l'émission Idéaux et débats. C'est le grand plaisir de retrouver Mathieu Simonet pour un très beau livre qui est paru chez Julliard et qui s'intitule La fin des nuages. Alors moi, je suis ravie qu'on se retrouve à cette occasion, Mathieu Simonet, parce que il y a La fin des nuages, mais il y a tout le parcours à côté d'événements que tu es amené à créer, d'écriture collective, et on en parlera quand même un petit peu après avoir parlé de La fin des nuages, parce que je trouve ça absolument passionnant. Alors moi, j'ai été très touchée par La fin des nuages parce que je trouve que c'est un livre assez hybride, assez inclassable, qui mêle à la fois des éléments très intimes, mais on n'est pas dans l'autofiction comme on peut avoir actuellement beaucoup. On est dans une histoire Tu utilises à un moment assez souvent le fait qu'il faut vivre poétiquement. Et je crois que c'est effectivement la lecture principale de ce livre. C'est comment on peut faire de ce qu'on traverse, quel qu'il soit, une aventure poétique.
Ouais, effectivement, je pense que je pense que quelles que soient les épreuves qu'on traverse, quel que soit ce qui nous arrive, on a toujours la possibilité de prendre un peu de recul et de se rendre compte que cette histoire a du sens, que cette histoire a un lien de causalité, et notamment en utilisant la théorie de l'effet papillon, qui est qu'un tout petit élément va entraîner beaucoup de choses. Et je trouve que de réfléchir à pourquoi on a eu une rupture, pourquoi quelqu'un est mort, pourquoi on se retrouve dans telle ville, pourquoi on a perdu son travail, pourquoi telle ou telle chose négative ou positive, le simple fait de refaire un peu le match et de revenir en arrière, on se rend compte qu'il y a toute une série d'événements qui ont entraîné ce qui s'est passé et que cet enchaînement est souvent en partie absurde et donc en partie poétique. Et je trouve que c'est une manière de reprendre le pouvoir sur sa vie, pas tant en changeant ce qui va arriver ou ce qui se passe, mais en étant capable de raconter une histoire. Et je crois beaucoup que tout le monde doit se sentir légitime à écrire une histoire, à raconter une histoire, que ce soit à l'écrit ou à l'oral. C'est ce que j'appelle la littérature horizontale, qui s'oppose à la littérature verticale, selon laquelle seuls quelques-uns seraient légitimes à écrire.
Ouais.
Et là, tout le monde peut se rendre compte. Et lorsqu'on interroge quelqu'un sur sa vie, quelle que soit la personne, y compris si la personne dit « il m'est rien arrivé d'intéressant », on se rend compte que juste par le phénomène de la curiosité, en creusant et en comprenant le pourquoi du pourquoi du pourquoi du pourquoi, ça fait toujours des histoires incroyables, et moi ça me fascine toujours.
Et c'est tout à fait ce qu'on voit dans La fin des nuages, ce livre de Mathieu Simonet qui est paru chez Julliard, c'est qu'effectivement, en fait, tout commence par une femme qui va être écrasée par un bloc de béton dans sa voiture à Marseille.
Effectivement, il y a assez longtemps, il y a une quinzaine d'années, avec Benoît qui était mon amoureux, on venait de se rencontrer, on lit le journal et on se rend compte qu'il y a un fait divers à Marseille, une femme qui était en retard dans sa voiture et qui essaye d'aller un peu plus vite, il y a un camion de pompiers qui lui laisse la place et elle se retrouve pendant une seconde à un endroit à Marseille et à cet endroit précis, il y a un bloc de béton qui tombe sur sa voiture et qui la tue sur le coup. Et à l'époque, le journaliste et les journalistes qui ont raconté ce fait divers, et Benoît et moi, on était tous fascinés par cette illustration de la théorie de l'effet papillon, parce qu'effectivement, si elle n'avait pas été en retard, si le camion de pompier ne l'avait pas laissé passer, etc., elle ne serait pas morte, elle ne serait pas morte juste à cet endroit. Et cette histoire fascinait Benoît, qui était mon mari et qui depuis est mort. Et quand il est mort, j'ai repensé à cette histoire, j'ai repensé à la théorie de l'effet papillon, et j'ai commencé à écrire La fin des nuages en lien avec l'effet papillon, et notamment une nuit, à l'endroit où nous sommes, là en ce moment, dans mon salon, j'avais une insomnie, et je me suis dit, mais finalement, l'histoire de cette femme à Marseille qui est morte, est-ce que c'est la vraie histoire? Parce que de temps en temps, on se souvient d'une histoire et puis les années passant, on la transforme un petit peu. Et je me suis dit, mais est-ce qu'elle a vraiment existé? Est-ce que j'ai rêvé cette histoire? Et donc, j'ai cherché sur Internet et j'ai retrouvé les journaux qui parlent de cette femme. J'ai retrouvé son nom, Marie-Thérèse Corso, elle s'appelait. Et je me suis rendu compte que... Je me suis rendu compte déjà que la nuit où je cherchais des informations sur elle, c'était la nuit de sa mort.
Ouais,
et alors ça, l'anniversaire de sa mort, ça, c'est tellement pas crédible que ça paraît fou, mais c'est vrai. Et je me suis rendu compte que l'histoire était encore plus romanesque parce que moi, j'avais rencontré Benoît quelques mois plus tôt dans une boîte de nuit. Elle-même avait rencontré un amoureux la veille dans une boîte de nuit. Et en fait, je pensais qu'elle était seule dans la voiture. Elle ne l'était pas. C'est son amoureux rencontré la veille qui conduisait. Son amoureux, lui, n'a rien eu, puisque le bloc de béton s'est écrasé sur la place passager, la place du mort. Et dans les interviews, j'ai vu que le frère de cette femme demandait à ce qu'il y ait une plaque à Marseille, à l'endroit où elle est morte. Et je réalisais à quel point c'est hyper important, quand on perd quelqu'un, de laisser une trace. Et donc j'ai demandé à un ami qui habite à Marseille d'aller vérifier si oui ou non il y avait une plaque. il y a pas de plaque. Et...
Ah, c'est dommage.
Et j'espère que ça changera. Et je vais à Marseille dans 10 jours, d'ailleurs.
Ah. Alors, ce qui m'a intéressée dans cette histoire d'effet papillon, on va y venir dans quelques instants, c'est le « et si, et si, et si, et si », cet enchaînement de causalité. C'est quelque chose qu'on fait fréquemment, en fait, mais qu'on fait fréquemment de manière négative, dans le sens « j'aurais pas dû », un peu, on ratiocine un petit peu. Et le livre, c'est l'opposé. C'est comment, c'est toujours cette dimension poétique, comment transformer quelque chose de douloureux, de terrible, en quelque chose qui peut avoir du sens et de la positivité.
Oui, parce que je crois que pour donner de la poésie à la vie, donner du sens à la vie, il y a la théorie de l'effet papillon qui permet de comprendre que tel élément a entraîné tel autre élément, sans jugement, sans se dire « Ah, j'aurais dû faire ceci ou j'aurais dû faire cela », juste en se disant « Ça raconte une histoire ». Et puis il y a aussi ce qu'on appelle la synchronicité, c'est-à-dire se rendre compte qu'il y a de temps en temps comme des choses magiques, des coïncidences magiques. Et ce qui m'intéresse, c'est pas tant de savoir si ces coïncidences sont vraies ou pas, si la magie existe ou pas. Je crois que de regarder la synchronicité, c'est le fait, ça correspond à avoir un regard poétique sur les choses, comme un photographe qui est capable de voir de la beauté là où il n'y en a pas forcément. Je pense que par le regard, on peut voir de la beauté, et par le regard, on peut trouver des coïncidences. Mmh. Il suffit juste d'être attentif. Et moi, comme ça me touche, je vois des coïncidences partout, ça me passionne, pas parce qu'il y a plus de coïncidences dans ma vie, mais juste parce que j'ai exercé mon regard à regarder les coïncidences, et je pense que tout le monde peut construire des histoires, tout le monde peut être attentif aux coïncidences autour de lui, autour d'elle.
Et ça fait du bien.
Ouais.
Je crois que c'est important de le dire. Tu cites un exemple de te retrouver à une intersection de deux rues dont le nom, on va laisser les lecteurs découvrir, mais rien que le nom de ces deux rues, ah, quelle bouffée quoi.
Et sans parler du nom de ces deux rues, et c'est raconté dans le livre, effectivement, à un moment donné, je vois le nom de ces deux rues et ça me bouleverse par rapport à ce que je vis. Et il y a une semaine, j'y suis retourné pour la première fois par hasard. J'avais un rendez-vous avec un metteur en scène pour un projet qui n'a rien à voir. Et en arrivant chez lui, je retombe devant ces deux rues, ces deux noms de rues qui m'avaient bouleversé. Et c'est comme une émotion qui est revenue d'un coup. Et je me suis dit, c'est fou, c'est fou. Donc effectivement, il faut regarder. Il faut juste regarder, prendre le temps et perdre son temps. Et accepter de ralentir, de perdre son temps. Et là, il y a toute une magie, toute une poésie qui nous traverse.
Il pleut dans ma bouche, sous ma langue un lac, couvert de feuilles rousses. Il pleut dans ma bouche, sur un tapis d'humus. Pèse mes molaires et mes parents dorment dans leur de lit. Il pleut dans ma bouche de septembre à décembre. Pas une bruine, une pluie de rue, l'amalgame fondu dégouline en un rue. Il pleut dans ma bouche, sur mes dents arrachées. Il pleut dans ma bouche. Il pleut dans ma bouche, et je reste couché.
Yeah. Alors la poésie, elle est très présente dans La fin des nuages, et elle est présente aussi pour raconter cette histoire intime, cette histoire qui ne pouvait pas être racontée avant, parce qu'il y avait un espèce de pacte passé entre vous qui était qui ne voulait pas que tu parles de lui dans tes livres. Et là, c'était important d'en parler parce que c'était aussi lui donner une place et le faire continuer d'exister. Laissons parler de mort.
Effectivement, Benoît, qui était mon amoureux, on a vécu 15 ans ensemble et il est décédé d'un cancer. Et quelques mois avant sa mort, quand il était à l'hôpital, enfin même quelques semaines parce qu'il a été à l'hôpital de 3-4 mois avant de mourir, Benoît, qui m'avait toujours dit qu'il ne voulait pas être dans mes livres, par pudeur, a changé d'avis subitement. À cause ou grâce à un dessin animé qui s'appelle Coco, qui raconte qu'on ne meurt vraiment que quand plus personne ne se souvient de nous. Et lui, la dernière fois qu'il a pris l'avion, il revenait d'Asie, c'est la dernière fois qu'il a pris l'avion, dans l'avion, il a vu par hasard Coco, et il m'explique qu'il a pleuré, parce qu'à cette époque-là, il savait que potentiellement il allait bientôt mourir. Et là, il me dit, je ne veux pas qu'on m'oublie, et donc je te donne carte blanche pour écrire sur moi. Et comme il était très pudique, je lui dis « mais je peux écrire ce que je veux ». Il me dit « oui, tu t'écris ce que tu veux, je ne veux pas qu'on m'oublie ». Et je crois que vivre avec ses morts, c'est trouver un moyen pour qu'on ne les oublie pas, et donc les symboles sont hyper importants, et c'est trouver aussi un moyen pour rester dans la vie. Et ce pont entre la vie et la mort est extrêmement important, et c'est tout un apprentissage qui est complexe, qui est subtil, et la poésie relie les vivants et les morts.
Alors, la poésie relie les vivants et les morts, et là arrive l'effet papillon. Parce que il faut que ces derniers instants, ce dernier souffle ait un sens aussi. Ça ne peut pas simplement s'éteindre, ça doit aller quelque part. Et c'est là que tu te mets à t'interroger sur, et alors, son dernier souffle, est-ce qu'il a modifier quelque chose, est-ce qu'il a entraîné de la pluie à un moment donné sur une place, mais il y a tout ce chemin et c'est tout le questionnement, et là on bascule d'univers parce qu'on passe de l'intime, du récit intime de cette histoire, à la théorie de l'effet papillon, qu'est-ce que c'est, d'où ça vient, et c'est passionnant, c'est absolument passionnant parce que il y a la science qu'on pourrait penser être dans le dur, et puis en fait, oui et non. Alors, ces recherches sur l'effet papillon.
Alors, c'est vrai que la théorie de l'effet papillon, à la base, c'est une théorie scientifique qui indique qu'une toute petite modification dans l'atmosphère peut avoir des conséquences énormes. Ça peut générer un ouragan. Donc un battement d'aile de papillon, réellement, peut entraîner un ouragan. Et cette théorie, elle peut se décliner de plein de manières, et le battement d'ailes de papillon, je lisais que ça peut être la même chose que le souffle d'une voix ou la parole. Et donc c'est vrai que je me suis posé la question, est-ce que le dernier souffle de Benoît, que j'avais enregistré, il se trouve qu'il était dans le coma dans les dernières heures, et j'avais enregistré son souffle avec une forme de culpabilité, comme si je savais pas trop pourquoi je faisais ça. Et après la mort de Benoît, je me suis dit, mais finalement, peut-être que ça avait un sens d'enregistrer son dernier souffle, parce que peut-être que son dernier souffle, par l'effet papillon, a eu un vrai impact sur la météo. Et comme Benoît avait créé un festival de musique qui a lieu sur le parvis de l'Hôtel de Ville à Paris, et qu'il avait toujours peur qu'il pleuve, et que le festival a lieu en juillet et lui est mort en février, je me suis posé la question, est-ce que le dernier souffle de Benoît pourrait entraîner la pluie pendant le festival, cinq mois plus tard, sachant que la spécificité, c'est que c'était en 2020, c'était le 10e anniversaire du festival, qui s'appelle le Fnac Live, et Benoît, quand il est mort en février 2020, n'a pas su qu'il y allait y avoir le confinement, et qu'il y allait avoir l'annulation de tous les festivals, et que donc son festival n'aurait pas lieu, alors qu'il avait fait toute la programmation avant de mourir. Et je me suis dit, pendant les 9 premières années, il n'a pas plu, ce serait formidable s'il pleuvait en 2020. Et donc, c'était comme une course après la montre entre sa mort et début février, le moment où aurait dû avoir lieu le festival, parce que je voulais vraiment savoir si le souffle de Benoît pouvait provoquer la pluie. Donc il y avait une espèce de suspense en moi de me dire, est-ce qu'il va pleuvoir ? et puis deuxièmement, de comprendre comment le souffle de Benoît pouvait entraîner la pluie. Et c'est vrai que ça a été un petit peu magique, puisque le festival devait commencer le 1er juillet à 17h à Paris, et le 1er juillet à 17h, il s'est mis à pleuvoir, et beaucoup de gens étaient au courant de ce projet, et je recevais des textos, mais je sais pas, j'ai reçu une centaine de textos à 17h, où partout des gens me disaient « il pleut, il pleut, il pleut ». J'avais indiqué que pour moi, s'il pleuvait, c'est la preuve que le monde pleure Benoît. Et donc, c'était assez incroyable. Et entre-temps, des scientifiques que j'ai interrogés m'ont expliqué que oui, c'était tout à fait possible que le souffle de Benoît, X mois plus tard, ait pu entraîner la pluie. Bien sûr, je n'ai pas la preuve du rapport de cause à effet, mais j'ai au moins l'information que c'est une hypothèse tout à fait crédible, plausible. Et la poésie, c'est de croire aussi à ce à quoi on a envie de croire.
Oui, et puis ce qui est intéressant dans cette histoire de l'effet papillon, c'est qu'en fait, quand on en reprend la genèse, elle naît de... cette hypothèse naît d'une incertitude. Et moi, ça me plaît bien quand on n'est pas dans la certitude. Tu donnes un exemple dans le livre qui est que 1 divisé par 3, ça donne 0,333 et une série, et on n'ira jamais jusqu'au bout. Et le fait de ne pas pouvoir aller jusqu'au bout terminé, ça crée une zone de doute qui est justement à l'origine de la bascule, qui fait que eh ben non, ce sera jamais exact. On aura toujours cet intervalle de doute et de flottement. Et c'est ça qui fait qu'un battement d'aile de papillon peut entraîner une tempête ailleurs. Et c'est d'autant plus intéressant que pour décrire ce phénomène, parce qu'il faut préciser que celui qui est à l'origine de ça, c'est un mathématicien qui s'est intéressé à la météo au départ et qui a créé cette théorie avec des termes qui sont assez extraordinaires, puisque il y en a un que j'aime beaucoup qui est l'attracteur étrange. Et pour caricaturer, parce qu'on n'est pas scientifique et que c'est pas le propos de cette émission, mais c'est de se dire que quelque part, le chaos, quelque part, à un moment, converge vers l'attracteur étrange. Et c'est dire que à l'infini, tout se réunit. Je trouve ça quand même extrêmement beau.
Et je pense que c'est l'enjeu de la littérature, de réussir à un moment donné à rassembler des mondes différents, des histoires différentes, des temporalités différentes, et d'en faire un livre qui, à un moment donné, va montrer qu'il y a une cohérence. Mmh. Et il y a de la poésie dans le chaos, et il y a de la poésie de prendre conscience que ce chaos, ça produit une forme d'ordre. Et c'est toujours, il y a toujours ce côté un petit peu magique. Et c'est vrai que je trouve ça très intéressant quand la science explique que la magie est vraie.
Ouais.
Et donc ce météorologue, Edouard Lorenz, il se rend compte effectivement que le moindre battement d'aile de papillon produit des effets énormes, mais qu'au final, on retombe un peu sur nos pieds parce qu'il y a une forme d'ordre. Et ça, c'est toujours magique. Et c'est la magie aussi de la poésie, parce que dans un premier temps, quand il a voulu expliquer la théorie de l'effet papillon, il y avait un participant dans une conférence qui a essayé de lui demander de préciser sa pensée. Il lui a dit « Mais est-ce que vous êtes en train de nous dire que le battement d'aile d'une hirondelle... »
D'une mouette
pourrait entraîner un ouragan ?» Il a dit « Oui. » Et la mouette, ça faisait pas rêver, visiblement. Et 10 ans après... pour une série à la suite d'une série de hasards, la mouette est devenue un papillon. Et là, la poésie du papillon a fait que ça a parlé à tout le monde, la théorie de l'effet papillon, alors que la théorie de l'effet mouette, ça parlait moins au public. Et c'est devenu, aujourd'hui, c'est sans doute l'expression scientifique la plus célèbre au monde, que tout le monde s'est réapproprié. Oui. Et donc...
Avec en plus le fait que la modélisation mathématique a une forme de papillon.
Totalement par hasard, oui, voilà. Exactement. La modélisation.
Et bon, il y a d'autres papillons dans le livre, on en parlera pas. Et ça, c'est aussi touchant, très, très émouvant.
Pour aller te voir, il faut prendre le train. C'est simple, ça me berce, j'aime bien. Je pense à toi depuis chez moi. Avant même qu'il en soit question, quand je comptais les moutons, ils se mettaient souvent en volage, à sauter par-dessus l'otage. Alors je les imitais, puis manquant de prendre l'eau, me tirais jusqu'à la rive, une lampe. langue des fluves de Porto. J'ai le sucre au bord des lèvres, le rubis au creux du ventre, un petit creux aussi, c'est vrai. Dîner de sardines, me dirais, sur un lit de tomates vertes, le vent du soir boisé, eucalyptus. Porto, malgré mon très jeune âge, voici maintenant dans mariage, me dirais-tu seulement peut-être, ce serait le plus doux des peut-être, et j'attendrai tes apports que tu sois prête. Porto, malgré mon très jeune âge, voici maintenant dans mariage, me dirais-tu seulement peut-être, ce serait le plus doux des peut-être, et j'attendrai tes apports que tu sois prête. Mon corps et mon cœur demandent encore à chaque heure que je m'en aille flâner dans tes jardins, les mains sous l'eau de leur fontaine. Que je m'étonne encore du courage des pêcheurs et de leur barque aux voyantes couleurs sur le rose pâle de l'eau. Petite farandole de fleurs blanches et qu'une malheur sillage, me voilà parti à la nage, partagé sur un bateau, un verre de vieux vin de Porto. Malgré mon très jeune âge, voici maintenant un mariage, me dirais-tu seulement peut-être, ce serait le plus doux des peut-être, j'attendrai tes apports que tu sois prête. Porto, malgré mon très jeune âge, voici maintenant dans mariage, me dirais-tu seulement peut-être, ce serait le plus doux des peut-être, et j'attendrai tes apports, j'attendrai.
Bien sûr, quand on parle de tempête et de vent et de souffle, on en arrive aux nuages, bien sûr, à ces nuages qu'ils guettaient chaque mois de juillet pour savoir s'ils allaient se diriger au-dessus de Paris et pleuvoir sur le festival. Et c'est l'autre versant du livre, La fin des nuages de Mathieu Simonet, paru chez Julliard. C'est quoi un nuage? Qu'est-ce que c'est que l'histoire des nuages? À qui ça appartient? Est-ce qu'on peut jouer avec parce que tu vas tomber en cherchant sur des nouvelles très très étranges de comment faire tomber de la pluie et puis le fait que peut-être il s'est produit un vol de nuages.
Ouais, c'est depuis très 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 longtemps, depuis des siècles, les hommes et les femmes essayent de manipuler les nuages pour provoquer la pluie. Et par exemple, au XVe siècle, des archers lançaient des flèches dans les nuages dans l'espoir de provoquer la pluie. Ça ne marchait pas, et je trouve ça hyper beau. En fait, c'est un peu le mythe de Sisyphe, le fait de se dire « on va faire quelque chose d'absurde, mais on va le faire sérieusement ». Et moi, je dis souvent que l'art, pour moi, c'est réaliser des rêves d'enfants avec des gestes d'adultes. Et je trouve qu'il y a une poésie dans le fait, pour un archer, d'essayer de lancer des flèches pour provoquer la pluie. Et ce qui est intéressant, c'est qu'au fur et à mesure de la progression de la science, certains ont réussi à avoir un impact sur la pluie. C'est ce qu'on appelle l'ensemencement des nuages.
Quel terme !
Voilà. Alors, ce qui est amusant, c'est que l'ensemencement. Donc, l'ensemencement, ça veut dire qu'on introduit de l'iodure d'argent dans les nuages, avec des fusées, avec un avion, ou avec des générateurs au sol qui font chauffer l'iodure d'argent et ça monte jusqu'au nuage. Et quand l'iodure d'argent se retrouve dans le nuage, ça favorise les précipitations. Et tout ça, c'est apparu après la Deuxième Guerre mondiale. Et c'est vrai que ce qui est intéressant, c'est qu'à partir du moment où on fait pleuvoir un nuage quelque part, on peut se dire, en le faisant pleuvoir à un endroit, on l'empêche de pleuvoir un peu plus loin. D'où l'idée de, est-ce qu'on peut voler un nuage ? Et par exemple, en 2018, il y a un général iranien qui a accusé Israël de voler des nuages. Et je trouvais ça à la fois très romanesque d'imaginer que des États puissent sérieusement dire « Vous m'avez volé mon nuage », parce que ça évoque tellement le monde de l'enfance, et que des États puissent se positionner comme des enfants, je trouve ça formidable au niveau romanesque. Et en même temps, c'est totalement angoissant, parce qu'on peut se dire « C'est angoissant parce qu'il y aura peut-être un jour une vraie guerre des nuages ». Là, dans le cas de l'Iran, heureusement, le patron de la météo iranienne a contesté les dires du général iranien. Mais si le patron de la météo iranienne avait dit « oui, 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 on nous a volé nos nuages », peut-être que ça aurait eu des conséquences géopolitiques dramatiques. Et puis, on peut se dire que les produits envoyés dans les nuages ne sont peut-être pas...
Ça donne.
Voilà, ils sont peut-être négatifs pour la santé, pour les sols, pour les humains, pour la faune, la flore. Et puis quand on pense à la théorie de l'effet papillon, on peut se dire que c'est pas anodin de manipuler un nuage. Donc est-ce qu'on n'est pas en train d'ouvrir la boîte de Pandore ? Est-ce qu'on n'est pas en train de jouer aux apprentis sorciers ? Et assez vite, ça m'a intéressé de comprendre l'histoire de la manipulation des nuages, qui est très très romanesque, de comprendre ce qui se passe et de découvrir qu'aujourd'hui, il y a une cinquantaine de pays qui manipulent les nuages et qu'il n'y a pas de cadre juridique. Et c'est là où j'ai eu envie de... Et c'est un peu le... Il y a plein de portes d'entrée, mais une des portes d'entrée, c'est je me suis dit, est-ce qu'on ne pourrait pas proposer à des enfants de s'allonger sur l'herbe pour regarder les nuages ? Donc en 2022, j'ai créé la Journée internationale des nuages, le 29 mars.
C'était la seule qui était libre.
La seule, voilà, c'était la seule journée au printemps qui était libre. Je voulais une journée au printemps, parce qu'il y a beaucoup de journées internationales. Mais là, il n'y avait rien le 29 mars, donc je suis allé dessus. Et 600 enfants et adolescents se sont allongés sur l'herbe, ont regardé les nuages le même jour sur un énorme terrain de foot. Et ils ont écrit ce qu'ils voyaient, parce qu'on voit souvent des pareidolies, des formes dans les nuages. Et j'ai considéré que tous ces textes, tous ces écrits, c'était comme une pétition enfantine, une pétition poétique, pour demander à l'ONU d'avoir une réglementation sur les nuages et pour demander à l'UNESCO de protéger les nuages dans le cadre du patrimoine mondial de l'UNESCO. Et donc à la fois c'était très poétique, mais en même temps ça a été très concret parce qu'on a vraiment écrit à l'ONU. On a fait une chaîne humaine avec les 600 enfants pour envoyer la lettre. Et la lettre est passée de main en main. Il a fallu bloquer un village entier, demander des autorisations à la préfecture. Et on a reçu une lettre de l'ONU, une réponse. Et une délégation de jeunes a été reçue à l'UNESCO pour demander l'entrée des nuages dans le patrimoine mondial. Et donc, ça veut bien dire que la poésie permet d'avoir un poids politique, parce que la poésie permet d'avoir une attention, une sensibilité, et de toucher les gens. Et je pense qu'il faut, il faut toucher pour changer les choses. Alors après, il ne faut pas être dans la manipulation, il ne faut pas juste toucher, après il faut des arguments. Et donc, je pense que la politique d'aujourd'hui, de demain, ça doit à la fois utiliser la poésie pour développer l'attention, développer le collectif. Et puis après, il y a toute une phase très sérieuse, pluridisciplinaire, pour analyser tous les arguments et après pour décider quelle est la meilleure solution.
Alors, effectivement, dans La fin des nuages de Mathieu Simonet, paru chez Julliard, on a toute cette progression, on a l'analyse juridique, on a les démarches qui sont entreprises. Mais moi, ce qui me fascine dans ce livre, c'est de voir qu'on passe son temps entre... réalité, point d'interrogation, ou fiction, et qu'on nage en permanence de l'un à l'autre. Alors tu évoquais le fait qu'il y avait 50 pays, une cinquantaine de pays qui manipulaient les nuages, il y a eu plein d'entreprises et tout, et tu t'aperçois qu'une des entreprises en question, celui qui travaillait sur la question, c'était un certain Von Gutt, dont le frère était Kurt Von Gutt, qui est devenu ensuite un grand écrivain de science-fiction. Et puis tu vas creuser tout un tas d'histoires, et tu vas te poser des questions sur ces histoires, et tu vas chercher, et puis bon, on va pas tout dévoiler, mais on passe notre temps à naviguer entre qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui est faux, et alors, et est-ce que ça compte, quoi. Voilà, qu'est-ce qui est le plus important? Est-ce que c'est de rêver? Est-ce que c'est d'imaginer? Est-ce que c'est de se faire un point de vue? Et aura-t-on un point de vue à la fin de la lecture du livre? Bah, chacun aura sa réaction, mais c'est cette promenade permanente entre les deux qui, moi, m'intéresse.
C'est vrai que moi, ce qui m'intéressait, c'était pas de me positionner en tant qu'expert, parce que je suis pas un expert des nuages. À la base, je suis avocat, écrivain, mais je suis pas un scientifique. Et même en tant qu'avocat, je ne suis pas un spécialiste du droit des nuages. Il n'y a pas de spécialiste du droit des nuages. Et ce qui m'intéressait, ce n'était pas de dire « voilà, je sais, je vais vous dire comment ça fonctionne, le droit des nuages, la manipulation des nuages, etc. » Je voulais plutôt montrer au lecteur comment on apprend en marchant, comment on cherche, comment on découvre les choses au fur et à mesure, comment on se plante, comment... Et effectivement, de temps en temps, on trouve des coïncidences, de temps en temps, on découvre qu'on n'a pas tout compris. À certains moments, je suis tombé sur des fake news, à certains moments, je suis tombé sur des vraies histoires. Et je trouve que c'est important pour chaque lecteur de se faire sa propre opinion, d'aller chercher, chercher par lui-même des informations, sachant que la grosse partie de cette histoire est vraie. À aucun moment, j'ai essayé de dire des choses fausses de manière... J'ai jamais essayé de jouer avec le lecteur. Ça m'amuse pas d'ajouter de l'imaginaire pour ajouter de l'imaginaire. Par contre, j'ai conscience que, sans doute, que si je faisais 10 ans de recherche de plus, je découvrirais qu'il y a certaines choses qui sont pas tout à fait exactes, qui sont plus complexes.
Docteur, un jour je marierai un ange. On fera l'amour dans les nuages. En priant pour que rien ne change, tu sais, une histoire ancrée dans les âges. Et docteur, un jour je marierai un ange. On fera l'amour dans les nuages. En priant pour que rien ne change. Et ici l'amour c'est beaucoup beaucoup trop superficiel. On fait que te répéter, un jour il tombera du ciel. Et c'est toujours le même discours, de belles paroles. Bientôt vous serez à court, non. Je m'en vais faire tout et je rêve que plus rien ne bouge sauf nos lèvres. Je m'élève et aussitôt que le jour se lève, je m'en vais faire tout et je rêve d'un amour n'existant pas qui pourtant m'attrustera. Docteur, un jour je marierai un ange. On fera l'amour dans les nuages en priant pour que rien ne change, tu sais. Une histoire ancrée dans les âges. Et docteur, un jour je marierai un ange. On fera l'amour dans les nuages en priant pour que rien ne change. Ne change. Ici l'amour c'est beaucoup beaucoup trop conceptuel. On fait que te répéter, les hommes, les femmes sont si cruels. Et c'est jamais comme au cinéma. Décidément on est moins beau loin des caméras. Aussitôt que les jours se lèvent, je m'en vais faire tout et je rêve que plus rien ne bouge sauf nos lèvres. Je m'élève et aussitôt que les jours se lèvent, je m'en vais faire tout et je rêve d'un amour n'existant pas qui pourtant m'attristera. Docteur, un jour je marierai un ange. On fera l'amour dans les nuages en priant pour que rien ne change, tu sais. Une histoire ancrée dans les âges.
Des domaines où il n'y a pas de vérité, puisque tu as je pense à deux scientifiques qui s'expriment à travers tes propos dans l'ouvrage et qui sont de points de vue totalement opposés.
Effectivement, c'est ce que tu disais tout à l'heure sur la force du doute. C'est Anne Sylvestre qui disait jamais les gens qui doutent. Ouais. Voilà, et je crois beaucoup qu'il faut chercher, qu'il faut s'interroger, qu'il faut écouter, qu'il faut être ému, qu'il faut douter. Et moi, je dis souvent que je suis dans la maîtrise en tant qu'avocat et dans l'abandon en tant qu'écrivain. Et je crois qu'il faut alterner, enfin, avoir conscience qu'il y a une complémentarité entre ce qu'on apprend et le fait d'être sensible à la fiction, à être sensible à une image. Et effectivement, là, tout à l'heure, tu évoquais les frères Vonnegut, et il y en a un qui a découvert comment manipuler les nuages, et l'autre qui est devenu un auteur de science-fiction célèbre qui a dénoncé la manipulation des nuages. Et cette histoire de frères, je la trouve très belle.
Ouais. Alors, il y a un exemple qu'on peut évoquer, si tu veux bien, Mathieu. C'est aussi une autre démarche artistique, autre que la tienne, qui est aussi intéressante, qui est celle de ce personnage, Monsieur Mou, qui veut aller au Canada et qui veut, lui, faire tomber la pluie, parce que c'est dans un triptyque créatif, c'est le deuxième opus, et là, il se dit, bah oui, je vais aller lancer de l'iodure d'argent pour faire tomber la pluie, comme les grandes traditions chamaniques, comme les faiseurs de pluie, comme les processions qu'on a encore pu voir cet été pour faire tomber la pluie, enfin bon, toute cette histoire qui existe depuis l'aube de l'humanité, qui est que la pluie tombe. Et lui s'est lancé dans cette entreprise, mais on est dans un monde où il y a des règles, où il y a des lois, où il y a un cadre très très précis, et c'est ce que tu racontes aussi dans La fin des nuages, et j'ai trouvé ça absolument passionnant, cette histoire.
Bah, c'est vrai que l'histoire de Monsieur Mou, moi, m'a aussi passionné, et c'est grâce à lui que j'ai découvert l'histoire de l'ensemencement des nuages, parce que jusqu'en 2011, avant de le rencontrer, je ne savais pas qu'on pouvait manipuler les nuages. Et en 2011, j'étais à la recherche d'histoires poético-juridiques. Ça m'intéressait d'organiser des événements à mon cabinet d'avocat sur des événements poético-juridiques. Et j'étais un peu à l'affût de ce type d'histoire. Et quelqu'un m'a mis en contact avec Monsieur Mou en me disant « Il va sans doute t'intéresser ». Et donc je rencontre ce Monsieur Mou, qui est un artiste, et qui me dit qu'il a entendu parler que le premier nuage qu'on a fait pleuvoir de manière artificielle, c'était aux États-Unis, que ce nuage se dirigeait vers le nord, que les Canadiens se seraient plaints d'un vol de nuages, et qu'il a voulu effectivement, 70 ans plus tard, rendre le nuage volé, et donc faire pleuvoir un nuage canadien qui se dirige vers les États-Unis. Et donc déjà, je trouvais l'idée extrêmement poétique, parce qu'on est toujours à la frontière de l'enfance et du monde adulte, et ce qui m'a fasciné, et ce que tu évoquais à l'instant, c'est que pour faire pleuvoir un nuage, Monsieur Mou s'est rendu compte qu'il était obligé d'avoir une autorisation.
On est dans un monde d'adultes.
Voilà, parce qu'au Québec, c'est un des rares territoires où une loi sur les nuages a été faite. Il y a très très peu d'endroits dans le monde où il y a une loi sur les nuages. Mais au Québec, il y a une loi sur les nuages qui dit qu'on ne peut pas manipuler un nuage sans autorisation. Donc il s'est dit, il s'est demandé qui a obtenu une autorisation. Et il s'est rendu compte que personne n'avait jamais sollicité une autorisation. Et tout d'un coup, il s'est dit, mais je pourrais potentiellement devenir le premier homme à avoir le droit de faire la pluie et le beau temps au Québec, ce qui est fou. Et donc, il a décidé de consacrer 3 années de sa vie pour remplir toutes les conditions pour avoir le droit de faire pleuvoir un nuage. Et donc, il y a plein de péripéties. Il a traversé 1000 péripéties jusqu'à faire pleuvoir un nuage en 2011. Un nuage qui se dirigeait donc vers les États-Unis. Il en a fait un film qui s'appelle Paparuda. Et totalement par hasard, c'était le moment où Benoît, mon amoureux, lançait la première édition de son festival. Et donc, je n'ai pas eu conscience à l'époque que Benoît, qui avait très peur qu'il pleuve et qu'il levait les yeux au ciel en se disant « j'espère qu'il ne va pas pleuvoir », et Monsieur Mou qui se disait « je vais faire pleuvoir un nuage pour rendre le nuage volé », à quelques jours près, il faisait la même chose. Et je me suis rendu compte de tout cela à la mort de Benoît, puisque Monsieur Mou m'a recontacté juste après la mort de Benoît.
Il y a encore plein d'autres choses qu'on pourrait évoquer dans La fin des nuages, mais on va vous laisser découvrir tout ça. C'est de Mathieu Simonet, c'est paru aux éditions Julliard, c'est vraiment un superbe livre. Et moi, je suis ravie de l'avoir lu, de l'avoir relu, et c'est un vrai bonheur. Mais comme j'évoquais au début de cet entretien, Mathieu, tu te lances dans plein de choses en même temps, beaucoup de projets, d'écriture collective. Tu veux bien nous en parler un peu ? Parce que oui, c'est aussi passionnant.
Ce qui m'intéresse dans l'écriture, c'est de montrer qu'on est tous légitimes à écrire. Et pour moi, c'est intéressant d'être un peu comme sur une piste de danse. C'est-à-dire que lorsqu'on est dans une boîte de nuit ou dans un bal, ce qui est agréable, c'est de voir tout le monde danser, de faire partie d'un tout. Et j'aime dans l'écriture qu'on soit dans la même idée, que tout le monde écrive. Et donc c'est pour ça que je crée des projets d'écriture collective, ouverts à tout le monde, qu'on écrive bien ou pas, qu'on ait une pratique ou pas, qu'on pratique le français ou pas. Et donc par exemple, j'ai proposé à des lycéens situés à 500 km les uns des autres de se faire des échanges de secrets. J'ai proposé à 300 lycéens d'écrire pourquoi ils ont eu honte de manière anonyme. J'ai proposé à des détenus d'écrire les rêves qu'ils ont fait pendant la nuit pour les lire à l'extérieur. Donc je suis beaucoup dans ce type de projet. Et pour les nuages, ben, je me suis dit pendant 10 ans, le 29 mars, je proposerai à tous ceux qui le souhaitent de recommencer l'expérience, c'est-à-dire de s'allonger sur l'herbe, de regarder les nuages et d'écrire ce qu'ils voient. Là, il y a quelques mois, le 29 mars 2023, on a 1500 personnes qui ont participé dans 10 pays. Et là, je suis en train de préparer l'édition 2024. Donc, si certains ont envie, seuls dans leur jardin ou avec d'autres personnes, tout le monde peut participer le 29 mars à cette opération politico-juridique. Et plus on a de participants, plus on a de poids pour demander aux politiques de reconnaître juridiquement les nuages.
Merci Mathieu.
Ben, merci beaucoup, j'étais très contente de te retrouver.
Merci, ça s'appelle La fin des nuages, c'est de Mathieu Simonet, c'est aux éditions Julliard.
Thank you. Libertaire, Radio Libertaire, Radio Libertaire, Radio Libertaire.
C'est toujours Radio Libertaire, c'est toujours 89,4 MHz, et c'est toujours Idéaux et Débats. On vient d'entendre Mathieu Simonet qui nous parlait donc de La fin des nuages, livre paru chez Julliard. Et dans quelques instants, nous retrouvons Gérard Guégan qui, comme à son habitude, nous a concocté une chronique avec des ouvrages à lire, bien sûr. Tout de suite, Gérard Guégan. Pour Radio Libertaire 89,4 MHz et nous retrouvons la chronique mensuelle de Gérard Guégan avec deux ouvrages au programme. Alors aujourd'hui, tu vas commencer par lequel ? Dis-nous.
Je vais commencer par La vie des ombres de Constance Rivière. Auparavant, je voudrais faire une mise au point. Bon, d'habitude, on a dû le comprendre pour ceux qui m'écoutent, nous écoutent, surtout toi. Je n'écris pas mes chroniques, je les improvise, d'où des erreurs parfois, des bredouillements, voilà. Aujourd'hui, compte tenu du sujet, des deux sujets, l'un qui est plutôt philosophique, le sujet de célébration du cogito, évidemment, c'est Descartes, et Constance Rivière, La vie des ombres, ça concerne un cinéaste qu'on appelle un documentariste et que j'aime beaucoup, qui est Frédéric Wiseman. Mmh. Donc j'ai un peu écrit, voilà. Alors ça va peut-être changer le ton de la chronique. Tant pis pour ceux qui n'aimeront pas, mais je ferai comme ça. Donc commençons. Alors ce livre étonnant et passionnant, c'est un livre qui détaille année par année les chapitres d'une œuvre à nulle autre pareille. Une œuvre qui commence en 1967 avec une descente aux enfers et qui continue de s'ancrer dans la vie quotidienne, car Wiseman, l'auteur, n'est pas mort, avec, on croit rêver, un film sur les trois gros, les inventeurs avec Bocuse, de la nouvelle cuisine. Ça, c'est assez extraordinaire. Le film n'est pas encore, je crois, sorti. Mais c'est assez formidable en même temps que ce type qui a côtoyé la souffrance, la douleur, la misère dans ses films, la bêtise et tout ça. Apparemment, peut-être est-ce son dernier film, vu son âge, c'est un film sur la cuisine, a priori. Donc, on n'en sait pas plus. Et ça, c'est assez formidable. Ça me fait penser à Henri Lefebvre. Henri Lefebvre, à la fin de sa vie, en dehors de donner des cours à Nanterre et tout ça, dès qu'il le pouvait, il allait manger dans des restaurants étoilés, comme on disait, en solitaire. Voilà, ça arrive. Bref, en tout cas, au centre de cette toile, la toile, c'est l'œuvre de Frédéric Wiseman qui n'en finit pas d'être tissée. Il y a ce qu'on appelle un documentariste, que les cinéphiles du monde entier qualifient de génial, et j'en fais partie. Si ce n'est que Frédéric Wiseman n'est pas un documentariste, il est un créateur, point final. Au temps des cahiers du cinéma, nous disions que tout grand film de fiction était un documentaire, à quoi j'avais ajouté que tout comme documentaire pouvait être une fiction. Il est vrai que j'avais 20 ans à ce temps-là, et je ne jurais que par Jean Rouch. Donc, Constance Rivière est l'auteur de ce livre, « La vie des ombres », et j'aimerais bien utiliser une image, puisqu'on est dans les images, pour parler d'elle, et de dire qu'elle, elle est la vitre. Et de ce fait, elle est la voyante. Elle est celle qui voit l'homme qui fait l'œuvre et l'œuvre elle-même. Donc, c'est la vitre permet ça. La vitre, ça permet de traverser le réel. Tandis que Wiseman, c'est plutôt un miroir, parce que lui, il ne se quitte pas du regard dès qu'il enregistre le monde autour de lui. Il ne commente jamais ses films documentaires, comme on dit, contrairement à d'autres cinéastes documentaires. C'est brut, il prend la réalité brute, sauf qu'il la monte. Et donc, comme il la monte, il triche sans doute un tout petit peu. Son premier film, donc, date, je l'ai dit, de 1967, et s'intitule toujours Titicat Follies. Et c'était le compte rendu. C'est pas rien de commencer par ça. Le compte rendu fracassant, c'est le cas de le dire, de sa visite dans un asile, dans une prison asilaire, si je puis dire, je sais pas si ça peut exister, un pénitencier psychiatrique, pour en parler Constance Rivière, c'est tout à fait ça. Et donc, c'est un choc complet. C'est un choc complet parce que c'est le jour, on peut imaginer que c'est le jour, c'est peut-être la semaine, où soignants et soignés font une fête. Donc certains se déguisent en femmes, d'autres surchargent, je veux dire. Donc c'est une atmosphère très 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 étonnante, très très angoissante en même temps. Et avec un psychiatre qui, à mon avis, est complètement starbé, qui chante du Gershwin et tout ça. Et d'ailleurs, je vais prendre le livre, je vais l'ouvrir à la page 36. Alors, le psychiatre, il parle avec un pédophile à un moment donné. Combien de fois par jour vous masturbez-vous? Ça, c'est sous l'œil de la caméra. 4. C'est trop. Puis, vous aimez les petites ou les grosses poitrines? Et il se lèche les lèvres en disant ça. C'est-à-dire, donc, je suis pas dans un film scientifique, là. C'est pas un vrai psychiatre.
Tu sais.
Mais c'est un vrai psychiatre. Et le même psychiatre, alors là, c'est un schizophrène, il dit, si je ne vous dis pas la vérité, crachez-moi au visage. Réponse de l'interné, pourquoi je ferais une chose pareille? Je vais manifestement bien et vous ruinez ma santé. La schizophrénie, c'est l'amour pour son père et pour sa mère. Ce n'est pas dangereux. Et le psychiatre dit, moi aussi, j'aime mon père et ma mère. Et tu peux pas voir ce film sans t'interroger de nouveau, comme on le faisait d'ailleurs au début des années 60 et début des années 70, sur la psychiatrie, quoi. Mais ça, c'est certain que c'est un document extraordinaire. Mais surtout que c'est vraiment des chansons, il y a de tout. C'est un mélange, quoi. Et donc, Wiseman n'intervient qu'au niveau du montage, évidemment.
Ouais.
J'ai oublié. Voilà ce que c'est. On écrit, il vaudrait mieux ne pas écrire ce qu'on va dire parce qu'au moins on enchaîne. Mais voilà quoi. En plus de Wiseman, voilà, je voulais dire quand, pour pas l'oublier, qu'en plus de ce que Constance Rivière dit de l'œuvre de Wiseman qu'elle a vue, évidemment qu'elle a vue parfois, c'est compté d'ailleurs. Il y a des pages où il n'y a pas le film, brusquement, parce que sinon, chapitre par chapitre, c'est année par année, on passe en revue la filmographie de Wiseman. Et là, c'est par exemple, il y a des pages sur la neige qui sont vraiment des pages de romancière et que c'est vraiment très très beau. Et puis, par exemple, il y a aussi celle sur émouvante, ou combien, sur la mort du père de la narratrice. Lequel père était à l'origine, on va peut-être dire, de sa rencontre ou de sa découverte de Wiseman, parce que lui avait déjà vu et tout ça. Mais il y a quelque chose qui m'est revenu en tête en lisant et en refermant le livre, c'est qu'il y a une tradition française qui est aujourd'hui quasiment disparue et qui était la visite. Par exemple, Hérault de Séchelles avait écrit un voyage à Montbard qui était une visite à Buffon. Et Maurice Barrès aussi avait écrit 8 jours chez Monsieur Renan, et qui est un véritable chef-d'œuvre, une descente en flamme d'ailleurs de Renan, mais c'est remarquable. Et donc, il y avait une tradition qui faisait qu'un jeune écrivain, on le poussait, un débutant, à écrire plutôt sur le type sur le compte-rendu de voyage, quoi. Des visites. Et donc, on peut dire qu'elle-même, Rivière, Constance, a écrit le récit de ses rencontres avec Wiseman, et c'est pour ça qu'une fois qu'on a son livre devant soi, on va jusqu'au bout, on le termine et on le reprend. Voilà ce que je voulais dire sur ce livre. Je l'ai peut-être mal dit, mais c'est un très 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 bon livre.
Oui, et puis Wiseman est quelqu'un d'extraordinaire. Donc merci d'avoir parlé de ce livre, donc qu'on ne peut que recommander, et qui est donc de Constance Rivière.
Voilà.
Le second.
Oui, c'est vrai. Alors, Jean Rouge, je sais pourquoi je rappelais ça, c'est parce qu'en fait, j'ai pensé, en revoyant Ticket Police, je l'ai revu hier, comme ça, quand j'ai revu par bout, en accéléré, si je puis dire, mais j'ai repensé au choc que j'avais eu avec Les Maîtres Fous de Jean Rouch, qui est quand même un film de 54, donc bien avant que Wiseman s'y mette. Et j'aurais bien aimé savoir ce que Wiseman pensait de Jean Rouch. Parce que Jean Rouch, Les Maîtres Fous, c'est une danse de la possession de noirs au bord d'un fleuve en hurlant et tout ça. Et il n'y a pas de commentaire. Et Les Maîtres Fous, c'est aussi une critique par les danseurs, les chanteurs du film de Rouch, une critique des maîtres. Voilà.
Alors, lui
mériterait aussi un livre.
Oui, mais pour l'instant, donc on va laisser les auditeurs découvrir donc La Vie des Ombres de Constance Rivière, et on a oublié de préciser que c'est paru chez Stock.
Oui, c'est chez Stock.
Jesus died for somebody's sins, but not mine. Milton, pot of thieves, wild cord on my sleeve, thick heart of stone, my sins my own, they belong to me, me. People say beware, but I don't care. The words are just rules and regulations to me, me.
Et alors, ça tombe bien parce que, si je puis dire, pour moi, c'est que Denis Moreau, dont j'avais lu au moins deux livres déjà au fil du temps, qui est un... Lui-même, il ne dédaigne pas les visites. Et même mieux, il fait mieux que les visiter. Il reste chez les gens. Et en tout cas, il s'est installé, on peut dire, chez Descartes. Parce que dès qu'il s'en éloigne, il y revient très rapidement. Donc, c'est ce qu'on appelle... Un professeur d'université spécialiste de Descartes. Sauf que c'est pas n'importe qui, Denis Moreau. C'est aussi, il y a de l'humour chez lui. Il y a du rire, il y a de la moquerie, il y a tout ça. Et là, c'est un tout petit livre, hein, qui fait 120 pages, même pas. Donc, sur ces 120 pages, il a toutes les clés en plus de l'œuvre de Descartes. Il a tout lu, même les œuvres en latin, car oh Descartes écrit en latin. Ouais. Il a toutes les clés, quoi, voilà. Mais donc de ce philosophe dont on dit évidemment non, sans fierté, tous nos ministres de la culture parlent de lui comme le philosophe français, en citant d'ailleurs à tout propos son supposé, je dis bien supposé, on verra pourquoi, cogito ergo sum, je pense donc je suis. Or, dès les premières pages de ce livre, patatras, Denis Moreau s'interroge sur cette paternité qui lui paraît plus ou moins fausse.
Ah.
Je vais citer donc les premières lignes de son introduction. « Je pense donc je suis. Pour faire plus savant, écrit Denis Moreau, on le dit souvent en latin, cogito ergo sum. Mais au bout du compte, cela donne l'air moins savant que cuistre, dans la mesure où Descartes, l'auteur supposé de la formule, ne l'a jamais écrite exactement ainsi dans les textes qu'il rédigea en latin. Drôle, non ?
Oui.
Voilà. Et du coup, suit du même Descartes un je doute, donc je suis, que je trouve assez remarquable. Hein. C'est mieux ça, je doute, donc je suis.
Oui.
Produit une dimension critique formidable, je trouve. Et sur le même ton, toujours un ton allègre, hein, le ton de Denis Moreau, c'est pas le prof qui bourre le crâne. Et de ce point de vue, donc son point de vue, si je puis dire, moi-même me redondant, il laisse vite entendre que pour lui, la philosophie se compare et se définit comme un jeu que l'on pratiquerait en jouant sur les mots. Donc, j'ai pris quelques exemples, parce qu'il note tout quand il passe dans les toilettes des établissements publics ou privés, je veux dire, chez les gens, soit au restaurant, il va noter ce qu'il lit, toujours parce qu'on trouve sur les murs des rappels de la pensée cartésienne. Voilà, je vais en trouver. Donc, un garçon de café avait écrit « J'éponge, donc j'essuie ».
Oui, oui. Oui.
Voilà. Donc, après, il y en a sans doute qui l'a inventé. Le joueur de poker, c'est « Je passe où je suis ».
Oui.
L'obsédé sexuel, c'est « Coito ergo sum ».
Oui.
Et l'amateur de contrepèterie, c'est « Je pense, donc je boude ». Et à Nice, il rappelle qu'au fond,
ouais. C'est drôle.
L'artiste Ben avait écrit « Je pisse, donc je suis ».
Oui, voilà. Ouais, ça c'est Ben, oui.
Et ça me rappelle, ça n'a rien à voir avec cogito ergo sum, mais quand Althusser a étranglé sa femme près de l'école normale supérieure, quelqu'un avait écrit sur un mur « Bravo Althusser, signé Jacques l'Éventreur ». Donc il y a du génie dans tout ça, voilà. Enfin, j'allais dire une dernière chose, parce que je ne vais pas entrer dans le détail de ce petit livre, sinon personne ne le lira, alors qu'il faut l'acheter et le lire. Descartes a fait ses études chez les jésuites, ce que j'ignorais. Mais en tout cas, maintenant que je le sais, je me dis que ça se devine dans la manière de parler, penser, de définir ouais. Choses, voilà. Et du coup, d'ailleurs, les jésuites ont au moins ce mérite, c'est qu'on ne s'ennuie pas en les lisant. Et voilà, c'est tout. On ne s'ennuie pas en lisant Denis Moreau.
Et c'est paru aux éditions du Seuil, c'est ça ?
C'est ça.
Ok. Eh bien, on ne peut que recommander de lire ces deux ouvrages très différents. Moi, j'avoue que j'aurais un petit faible quand même pour le Constance Rivière, mais chacun selon ses goûts. Merci.
Mais ils vont bien ensemble.
D'accord, on te fait confiance.
Je pense qu'il devrait ressusciter Descartes et aller le filmer. Allez.
À bientôt, merci.
Et merci.
Voilà, c'était Gérard Guégan sur Radio Libertaire qui, comme chaque mois, nous chronique quelques livres dont il a particulièrement apprécié la teneur. Et c'est ce que je vais faire aussi, moi, maintenant, en vous parlant donc de cette réédition parue chez Gallimard d'Une saison en enfer d'Arthur Rimbaud, avec des illustrations, photos, écrits et dessins de Patti Smith. Alors bon, j'aime Arthur Rimbaud, j'aime Patti Smith. Patti Smith aime Arthur Rimbaud et c'est une longue histoire, puisque quand elle a quitté sa ville natale pour aller à New York, la seule chose qu'elle avait sur elle, c'était justement un livre de poèmes d'Arthur Rimbaud. Arthur Rimbaud l'accompagne depuis toujours et quand elle en parle, et ben c'est avec une grande passion. Comme elle le dit, elle est amoureuse d'Arthur Rimbaud et avoir Arthur Rimbaud comme amant dans sa vie, même si c'est un amant fictif, et bien ça remplit nos cœurs de joie. Donc voilà, il y a 150 ans paraissait Une saison en enfer. Arthur Rimbaud l'avait écrit à un moment particulièrement douloureux de sa vie, puisqu'il était à l'époque rentré à Roche, après cet épisode très douloureux qui s'était passé en Belgique avec Verlaine. Au cours de leur voyage assez tumultueux, ils avaient atterri dans cet hôtel de Bruxelles. Et alors qu'ils étaient tous les deux assez ivres, une dispute, une de plus, avait éclaté. Et Verlaine avait tiré sur Rimbaud avec un pistolet qui avait blessé Arthur. Même si cette blessure n'était pas mortelle, elle a été quand même particulièrement destructrice. Rimbaud n'a pas déposé plainte, mais Verlaine a quand même été emprisonné parce que Rimbaud avait peur qu'il continue de tirer et qu'il finisse par le tuer. Il avait appelé au secours un policier et celui-ci, malgré le fait qu'il n'y ait pas de plainte, avait arrêté Verlaine puisqu'il avait subi un examen médical approfondi et qui avait révélé son, entre guillemets, son... sa dépravation, et il s'était retrouvé donc emprisonné en Belgique. Rimbaud, complètement démoli, va rentrer à Roche avec sa mère, et c'est là qu'il va se mettre à écrire Une saison en enfer, qu'il a fait publier à compte d'auteur à Bruxelles, croyant qu'il connaîtrait le succès avec cette œuvre. Et il le fit tirer à 500 exemplaires, dont 50 pour lui. Et malheureusement, le succès escompté ne vint pas. Et ce n'est que plus tard qu'on découvrira à quel point cet ouvrage était génial. Il y aura une deuxième édition qui sera faite plus tard, après la mort de Rimbaud. Elle sera réalisée par Verlaine, qui adjoindra à Une saison en enfer les illuminations. Et en 1892, ce recueil paraîtra avec une préface de Verlaine et connaîtra le succès qui, depuis, n'a jamais été démenti. Alors, pour ce 150e anniversaire d'Une saison en enfer, Gallimard a fait fort puisqu'il a demandé donc à Patti Smith de faire cet ouvrage. Et s'il y a le texte intégral d'Une saison en enfer avec une présentation absolument superbe, des facsimilés, des poèmes de Rimbaud, mais également des photos faites par Patti Smith, des textes qu'elle a écrits où elle évoque son rapport à cette poésie, il y a aussi, en deuxième partie d'ouvrage, un choix de poèmes autres qu'Une saison en enfer et de lettres, parce que Rimbaud écrivait beaucoup à sa sœur, entre autres.
et à ses amis. Et donc, dans ses choix de poèmes et de lettres, il y a, à mon avis, l'essentiel de Rimbaud. Si jamais vous ne connaissez pas vraiment Rimbaud au-delà de ses textes, vous y découvrirez un peu le personnage au travers, entre autres, de cette correspondance. Et je dois dire que c'est particulièrement émouvant de le retrouver ainsi, qui parle à sa sœur comme s'il était là, parce qu'il est là, parce qu'il sera toujours là. Et le bandeau de cet ouvrage, donc Une saison en enfer, paru chez Gallimard en grand format, c'est une très très belle photo. C'est une photo de Patti Smith qui tient un revolver à la main, et ce revolver, c'est celui qu'a utilisé Verlaine pour tirer sur Rimbaud. Alors ce n'est pas elle a racheté Roche, mais le revolver a été acheté par un collectionneur qui lui a prêté pour l'occasion, et je dois dire que l'ensemble donne quelque chose de particulièrement émouvant. Alors vraiment, découvrez Une saison en enfer, donc cette édition grand format parue chez Gallimard, et illustré par l'amour pour Rimbaud que connaît Patti Smith. Voilà, c'est toujours Radio Libertaire, c'est 89,4 MHz, c'est Idéaux et Débats. On arrive à la fin de cette émission et on se retrouve dans 2 semaines avec des livres très différents. Il y sera entre autres question de Rose avec Oscar Kopfan. Au revoir, portez-vous bien.
Et la mère, fermant le livre du devoir, s'en allait satisfaite et très fière, sans voir dans les yeux bleus et sous le front plein d'éminence l'âme de son enfant livrée aux répugnances. Tout le jour, il suait d'obéissance, très intelligent, pourtant d'éthique noire quelque temps. Semblait prouver en lui d'âcres hypocrisies. Dans l'ombre des couloirs aux tentures moisies, en passant il tirait la langue, les deux poings à laine, et dans ses yeux fermés voyait des points. Une porte s'ouvrait sur le soir à la lampe. On le voyait là-haut qui râlait sur la rampe sous un golfe de jour pendant du toit. L'été surtout vaincu, stupide, il était entêté à se renfermer dans la fraîcheur des latrines. Il pensait là tranquille et livrant ses narines. Quand l'avait des odeurs du jour, le jardinet derrière la maison en hiver s'illunait, gisant au pied d'un mur enterré dans la Marne, et pour des visions écrasant son œil d'arne, il écoutait grouiller les galeux espaliers. Pitié, ses enfants seuls étaient ses familiers, qui, chétifs, front nu, œil déteignant sur la joue, cachant de maigres doigts jaunes et noirs debout, sous des habits puant la foire et tout vieillot, conversaient avec la douceur des idiots. Et si, l'ayant surpris à des pitiés immondes, sa mère s'effrayait, les tendresses profondes de l'enfant se jetaient sur cet étonnement, c'était bon, elle avait le bleu regard qui ment. À 7 ans, il faisait des romans sur la vie du grand désert, où lui la liberté ravit. Forêt, soleil, rive, savane, il cédait de journaux illustrés où rouge il regardait des Espagnols rire et des Italiennes. Quand venait l'œil brun folle en robe d'indienne, 8 ans, la fille des ouvriers d'à côté, la petite brutale, et qu'elle avait sauté dans un coin sur son dos en secouant ses tresses et qu'il était sous elle. Il lui mordait les fesses, car elle ne portait jamais de pantalon, et par elle meurtrie des poings et des talons, remportait les saveurs de sa peau dans sa chambre. Il crie. craignait les blafards dimanches de décembre, où, pommadé sur un guéridon d'acajou, il lisait une Bible à la tranche vert chou. Des rêves l'oppressaient chaque nuit dans l'alcôve. Il n'aimait pas Dieu, mais les hommes au soir fauve et noir en blouse, il voyait rentrer dans le faubourg, où les crieurs, en trois roulements de tambour, font autour des édits rire et gronder les foules. Rêvait la prairie amoureuse où des houles lumineuses, parfums saints, pubescence d'or, font leur remuement calme et prennent leur essor. Et comme il savourait surtout les sombres choses, quand dans la chambre nue, aux persiennes closes, au thé bleu, âcrement prise d'humidité, il lisait son roman sans cesse médité. Plein de lourds ciels au creux et de forêts noyées, de fleurs de chair au bois sidéral déployé, vertige, écroulement, déroutes et pitiés, tandis que se faisait la rumeur du quartier, en bas seul et couché sur des pièces de toile écrues.
Say, let go, disappear. Without hope of greater joy. Let go, disappear.
say let go, disappear. Without hope of greater joy.
Radio Libertaire, Radio Libertaire, Radio Libertaire, Radio Libertaire. Radio Libertaire, Radio Libertaire.
Dans ce cri qui n'a pas la rosette, cette parole de prophète, je la revendique et vous souhaite ni Dieu, ni maître, ni Dieu, ni maître, pas vrai maître.
Alors,
je fume, je bois et j'écris.
Les mots sont dangereux, ils rendent vraies les choses.
Moi je sais lever le poing, moi je n'oublie jamais rien. Moi je sais rester humain, je sais toujours d'où je viens.
Nous on ne veut pas être des gagnants, mais on n'acceptera jamais d'être des perdants.
Idéaux et débat, livre et combat.
Je porte un toast à tous ceux qui ont lutté pour que nous puissions nous arracher à cette condition forcée. À tous ceux qui pensent que nous sommes des humains et pas qu'une somme de cerveau disponible de part de tranches de cible. À tous ceux qui l'ouvrent bien grand.
Je me connais, je lâcherai pas l'affaire. Je vais piquer le grève comme on pique une colère. Plus têtu que tous les vieils hommes et la mer. Pour que continue le combat ordinaire.
Je fume, je bois et j'écris.
Va falloir montrer les crocs avant qu'ils nous serrent la laisse autour du garrot.
J'ai tort peut-être, je l'adore. Des amis viennent, je peux les toucher. Je suis triste et émerveillée. Le silence, je garde le silence. J'habite là, je le peux. C'est la dernière maison de la terre. À l'intérieur, il y a des arbres, de l'herbe, des ruisseaux. Dehors, du carreau, des murs, du béton, sur toute la terre. Tu n'as pas froid? La terre va encore se refroidir.
Réveillons, réveillons, c'est le réveillon. Réveillons, c'est le réveillon. Réveillons nos soleils. Réveillons nos soleils.
Ne suis-je pas prisonnière? Depuis le jour où la nuit est venue, geôlier, tu es prisonnier.
tu ne perdras que ta prison. Tu ne perdras que ta prison. Perds un peu ta raison. Perds un peu ta raison.
Je vous déclare la paix. Foutez-nous la paix. Foutez-nous la paix d'abord. Elle sera notre enfant. Comme quand on était petit. Tu n'es pas venu pour me tuer. Alors, ne me tue pas.